En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Alors, donc, le viol quand même de guerre. Alors, commençons par vraiment des banalités. Depuis toujours, les guerres, les expéditions punitives, les expéditions coloniales associent viol, violence physique, rapine et massacre. Le mercenaire, le soudard, l'envahisseur est violeur et il est de toutes les époques. Mon intention n'est pas de traiter du viol des femmes en temps de guerre. Rassurez-vous, ce n'est pas mon sujet. Qui est considéré comme avec un certain fatalisme. Par contre, ce fatalisme m'interpelle personnellement et parce qu'on le considère comme étant le viol, comme étant un acte consubstantiel de la guerre, un dommage, un dégât collatéral, des désordres de la guerre. Mais moi, ce qui m'a amusé, c'est d'essayer... pas tellement réussi, mais enfin c'est comme ça, de remettre en perspective le paradigme qui s'est imposé au niveau international depuis seulement 2008 et qui est le viol comme arme de guerre. Donc c'est ça qui m'amuse de regarder un peu différemment, donc de voir comment, à quoi ça correspond, puis surtout si on a dans le passé des choses qui ressemblent, bien que, on verra, bon c'est plus compliqué. Alors d'abord j'ai commencé dire que c'est une arme de guerre multiséculaire, d'abord parce que je commençais non pas par la Grèce, mais par l'Antiquité romaine. S'il y avait Yann de Boeck, il dirait évidemment la même chose. Les vaincus sont automatiquement victimes d'une tétralogie tout à fait sinistre, vol, viol, meurtre et incendie. C'est toujours comme ça. Les survivants, quand ils ont de la chance, ils deviennent esclaves. C'est encore une petite purette. Donc c'est une sorte de droit international, coutumier, non écrit, et qui entérine ces pratiques. Si vous lisez le premier livre de « La cité de Dieu » de Augustin d'Hippone, c'est-à-dire de saint Augustin, c'est-à-dire de père de l'Église, eh bien là vous verrez qu'il dit « grand malheur la guerre, mais c'est le ius belli ». C'est même la consuetudo bellorum, c'est-à-dire c'est la coutume de guerre. Le viol est la coutume de guerre. Et il explique d'ailleurs, c'est assez amusant, j'ai le texte là, que les vierges, quand elles sont violées, eh bien elles gardent leur vertu. C'est le corps qui est atteint, mais c'est tout. Elles participent à rien, c'est tout. Maintenant, il faut évidemment, puisqu'on est quand même avec l'Église, il faut quand même s'interroger que si les femmes sont violées, c'est qu'elles ont peut-être fait des péchés. Quand même, hein, parce qu'elles ne sont pas complètement... Donc cet argumentaire-là, à mon avis, va perdurer et peut expliquer cette espèce de « eh bien c'est comme ça, c'est les désordres de la guerre ». Alors l'argumentaire il est simple, hein, ce qui importe c'est le butin, qui représente la grande attractivité pour le soldat romain, c'est le salaire de la peur, c'est un phénomène de défoulement, de décompensation après la peur du combat, c'est le plaisir d'humilier le vaincu, et puis c'est aussi la volonté d'apprendre à la femme eh bien, qu'elle a perdu sa liberté, qu'elle est devenue esclave et qu'elle change de main. Alors la définition qu'en donne Suzanne Braun-Miller, donc bien après, mais enfin bon, contemporaine, me paraît tout à fait correspondre. Le viol est l'acte essentiel par lequel un homme démontre à une femme qu'elle est conquise, vaincue par sa force et sa puissance supérieure. Les auteurs antiques ne condamnent pas le viol. Par exemple, on a un viol pendant la guerre civile à Crémone, la mise à sac de Crémone en 69, et tacite. Alors là, le viol a été pratiqué sans tenir compte de l'âge, du rang et du sexe. Donc, tout le monde y est passé. Et Tacite, lui, là, il proteste, hein, il est indigné, parce que c'est un manque de discernement, mais pas parce que c'est du viol. Hein. Donc dans les guerres de l'Antiquité, le viol est un acte systématique accompagnant jusqu'au symbole la possession d'un territoire, du corps des femmes, qui est butin et repos du guerrier. Alors, je vais vous montrer des images très amusantes de l'art pompier, enfin bon, ou pas pompier d'ailleurs, mais à pompier. Là, vous avez la vision qu'on pouvait avoir au XIXe siècle de la femme de la préhistoire, qui était évidemment raptée pour être... On ne parle pas de viol, hein, là, attendez, on ne parle pas de mot viol, vous verrez après. Là, évidemment, le grand classique, l'enlèvement des Sabines, hein, tableau bien connu. Il faut bien dire aussi que le viol n'a jamais été condamné. Enfin, c'est pas comme l'inceste. L'inceste, il y a toujours eu un interdit total, pas le viol. Et d'ailleurs, à l'époque des Grecs, les dieux violent allègrement tout le monde, enfin tout le monde, des femmes. Et les femmes, pour celles qui résistent, elles préfèrent la métamorphose ou la mort. Et d'ailleurs, Saint-Augustin dit, il ne faut pas se tuer. Hein. C'est le suicide pour échapper au viol, non. D'accord. Donc tout, c'est bien mis en place tout ça. Alors, autre, là, vous avez évidemment, là aussi, superbe tableau de David. Voilà. Et puis alors celui-là, qui est quand même la crème de la crème, parce que c'est exactement comme ça qu'on voyait, alors c'est le 19e siècle, d'accord, mais vous voyez le Brennus, hein, donc ça c'est ses références au sac de Rome de 390 avant Jésus-Christ, donc il a encore là ses dégoulines de sang, et vous avez les femmes, alors là vous avez les femmes, on voit bien l'influence aussi de l'orientalisme, on ne parle pas de viol, hein, c'est la part du butin, c'est des captives, point barre, d'accord. Donc, alors, rupture quand même avec la période, je vous la laisse parce que quand même ça va vous sens. La rupture entre l'Antiquité romaine et puis l'ère du christianisme, c'est que le viol est condamné par l'Église quand même, que tout a été fait en quelque sorte pour humaniser la guerre. Vous avez des paix de Dieu, et la paix de Dieu, c'est protéger les moniales, les clercs, les femmes nobles, et puis au fur et à mesure, on va rajouter les paysannes, les marchands, les pèlerins, etc. C'est-à-dire les civils, en général. Il y a aussi la trêve de Dieu, donc qui est une autre façon de régler la guerre entre nobles. Et puis, il y a des autorités militaires qui, peu à peu, vont chercher à imposer à leurs troupes la discipline de chevalerie, pour humaniser la guerre et puis aussi renforcer la discipline et l'efficacité des armes. C'est lutter contre les mauvais exploits, et ces mauvais exploits, c'est le pillage, la robberie, le meurtre, le sacrilège, la violation, les forcements de femmes, l'emprisonnement. Et donc on a ça. Alors il ne faut pas s'imaginer, au Moyen-Âge on a pratiqué la guerre totale, et puis à la fin du Moyen-Âge s'est introduit un certain nombre d'individus, une masse d'aventuriers, on peut même parler de brutalisation, même si j'aime pas trop, mais enfin admettons, et là vous avez les mercenaires des grandes compagnies, les écorcheurs en France, vous avez les compagnies d'aventure en Italie, les lansquenets en Allemagne, les estradeurs albanais pendant la guerre d'Italie, et là il faut bien dire, ça a réveillé les bêtes de bêtes fauves et sadiques, et modifier l'atmosphère des guerres, car même les chevaliers vont s'en donner, et justement, on massacre les vaincus, on refuse des rançons, enfin, on change quand même de dimension. Alors, le mot « violer » est apparu en français en 1170, il vient du latin « violare », traité avec violence, de la famille vis, hein, force, violence, et le mot « viol » n'est apparu qu'en 1647. Et avant l'apparition du mot « viol », on employait plutôt le mot « profanation ». C'est-à-dire que finalement, quand on forçait une femme, donc violer, c'était donc avoir des relations sexuelles avec quelqu'un par la force, hein, sans son consentement, mais le viol était perçu comme une profanation, c'était pas un outrage à la personne, mais un rapt, un enlèvement. C'est-à-dire on le ravissait, là, cette personne, à l'autorité et à la propriété du père, de l'époux, du clan familial. Ce n'était pas l'individu qui était donné. Alors, vous avez un exemple emblématique de cette évolution quand même et de la notion de protection des civils, ces fameux Bayard, hein, je ne résiste pas, vous vous souvenez, il est au siège de Brescia, il est gravement blessé d'un coup de pique dans le haut de la jambe. Et à la stupéfaction de ses contemporains, il est recueilli par un gentilhomme et il va intervenir pour sauver la demeure du pillage de ce gentilhomme et aussi la femme du déshonneur. Et ça a beaucoup surpris et participé de sa légende de chevalier sans peur et sans reproche. Donc c'est quand même particulier, mais dans les récits militaires du 16e, 17e, 18e, on trouve souvent les officiers qui s'interposent pour sauver des femmes, etc. Le problème, c'est que le viol est, je dirais, implicitement excusé en temps de guerre, même par les grands jurisconsultes de l'Ancien Régime, même Grotius ne condamne pas. Il dit, mais que dirions-nous de la licence de violer les femmes ou les filles des ennemis ? On voit cela est permis chez les uns et défendu chez les autres. Donc, c'est jugé admissible. Alors évidemment, au siècle des Lumières, ça va être de moins en moins admissible, c'est de plus en plus conçu une évolution des modalités, l'apparition des sensibilités, d'individualisme. Et par exemple, Bonaparte, quand il débarque en Égypte en 1798, dans sa proclamation donc, aux soldats du corps expéditionnaire, il dit « Dans tous les pays, celui qui viole est un monstre ». Donc, vous inquiétez pas, les soldats violeront, pas de problème. Ce qui compte, c'est que le viol, moi, j'ai demandé à des historiens d'autres périodes que la mienne pour voir si effectivement on trouvait des instructions ou autres. Il n'y a pas d'instructions. Le viol, enfin, je parle en Occident, en France, il n'y a pas d'instruction de violer. Alors, vous allez me dire que parler du viol, si je dis que c'est pas employé à la guerre. Et il y a un tout petit problème. C'est à propos du sac des villes. Le sac des villes, si je reprends la définition de Furtière, c'est pillage d'une ville, prise d'assaut, qu'on abandonne à la fureur des soldats. Et là, en cas de prise d'assaut, donc, quand une ville a résisté, la coutume est de livrer au moins la ville à trois jours de sac. Henri IV avait tenté, en 1590, d'imposer 24 heures. Ça a toujours été plus long. Donc, il n'y a pas d'appel au viol, mais il y a plus qu'une ambivalence, puisque on va mettre des soudards dans des villes qui ont le droit de tout faire et qui vont tout faire, violer, tuer, etc. Et on se retrouve avec la tétralogie de l'Empire antique de Rome. Donc la tradition guerrière, le viol est perçu comme un hymne à la virilité des combattants et donc autorisé par les commandements en récompense des services rendus pour exalter la bravoure, pour doper le moral. On dit que c'est toujours, moi ça m'agace, mais c'est comme ça, la satisfaction physiologique de pulsions sexuelles, donc au nom de la virilité, du masculin musclé, hein, puissant. Le viol est vu même comme une prouesse, un exploit du guerrier, et dans l'armée, qui est le lieu par excellence de la socialisation de cette culture, de la virilité, je dirais, misogyne, où les dénigrements des femmes et de ce qui est féminin est exaspéré, eh bien, même participer à des rituels, ça se retrouve. On a même quelque chose de plus. Alors là, c'est chez quelqu'un d'étonnant. C'est chez Brantôme, qui était abbé, Brantôme, et qui dit « Les femmes qui aiment les hommes de guerre aiment toujours plus que les autres, et leur violence leur en fait venir plus d'appétit. » Donc, mesdames, si vous êtes violée à la suite d'un sac d'une ville, c'est que vous l'avez bien cherché. Alors, on a comme ça, dans l'histoire, un certain nombre de sacs qui ont plus ou moins choqué, parce qu'on a été trop loin, ou etc. Il faut bien dire, donc c'est pour le butin, et c'est des vraies chasses au vagin, hein, faut bien dire, si possible vierge. Donc, ce qui fait que, alors, mais vous avez des fois où ils vont trop loin, c'est trop. Par exemple, le sac d'Issoire, c'était une guerre de religion, donc le sac d'Issoire en 1577, parce que tout simplement, sa ville a été prise par le duc d'Anjou, frère du roi, donc quand même. Mais les soldats sont rentrés alors qu'ils étaient en négociation de reddition. Donc, normalement, quand une ville se rend, elle n'est pas mise à sac. Alors ça a choqué. La guerre de 30 ans, vous avez le sac de Magdebourg qui est resté dans les mémoires de 1631. Là, c'est de Tilly. Alors on dit que c'est un homme intelligent et pieux, très serein, mais qui pouvait être très cruel et qui a donc vis-à-vis des civils. Et en plus, il s'adonnait soi-disant aux vices ultramontains. Je pense que vous savez ce que c'est, oui. Alors, massacre, donc, Magdebourg, 30 000 hommes, 30 000 morts, donc énorme, et ça a quand même choqué. Et puis, on a un témoignage pendant la campagne de Flandre, du sac de Tirlemont, alors, qui est en juin 1635, par le prince d'Orange qui est allié aux Français, dans la guerre franco-espagnole, et il y a une abbaye hein, qui est prise d'assaut. Et là, vous avez Pontis, colonel, futur janséniste, hein, qui est missionné pour protéger du viol et du pillage les moniales d'un couvent. Il a quelques soldats avec lui, il est l'arme au poing, hein, et puis attiré. Et là, il va être totalement bousculé, débordé par une foule. Parti hollandais, parti cravate, hein, croate, parti français, tous enragés et pires que des démons, et tous sans Dieu, sans religion et sans raison. Il va être désarmé par un officier. Il va aller se plaindre au maréchal de Brézé, qui va faire mouvement des troupes pour protéger finalement par la présence de ses troupes le couvent, et six ascètes religieuses vont quand même échapper au viol. Quelques jours plus tard, Pontis, rencontrant cet officier, va vouloir lui casser la gueule, hein, en termes précis, et il va exiger qu'il lui rende son épée et son boudrier. Il lui dit « Tu n'es qu'un copain, tu vas te faire pendre tout à cette heure pour les violences que tu as commises contre l'ordre des généraux. » Enfin, c'est un peu ambigu. Enfin, bon. Le maréchal de Brézé va se plaindre au prince d'Orange, et le prince d'Orange, devant Pontis, va sermonner le fameux officier, va le menacer de le faire pendre avec ses compagnons, ainsi qu'il le méritait en bonne justice. Je ne sais si les menaces furent suivies des effets, dit Pontis, et je peux vous assurer que ça n'a pas été suivi des effets. Alors, on en a parlé tout à l'heure de Callot. Alors là, justement, je vous ai pris une dévastation d'un monastère. A priori, là, vous n'avez pas trop de viol, j'étais un peu déçue. Alors, le chose que j'ai trouvé chez Vigarello, c'est disant que Callot ne parlait pas des viols. Alors là, j'ai quand même été sidérée, parce que là, vous avez, là, c'est très clair, d'ailleurs il le dit en bas, le vol, le rapt étant vraiment le viol, le meurtre et le violent. Et donc ça c'est vraiment très clair, là vous avez la femme là dans le lit, il n'y a pas de quartier, et puis vous avez là, c'est assez suspect la scène qu'il y a là, donc il y a les viols, c'est assez étonnant sa réflexion. Voilà. Au XVIIIe siècle, donc, vous avez évolution des mentalités et vous avez justement ces dégâts, dévastations, sacs des villes qui choquent. Et au XVIIIe siècle, il y a un dernier sac vraiment qui a vraiment choqué, c'est celui de 1747 et c'est le sac de Berg op Zoom en Hollande qui a été entrepris par Lovendal. Qui était un Allemand, enfin sous lieutenant général dans l'armée française, qui était une ville réputée imprenable, était mise à sac. Et le maréchal de Saxe, ça a vraiment choqué toute l'Europe. Et Louis XV était très ennuyé, et le maréchal de Saxe lui dira « Sire, il n'est pas de moyen terme, vous devez le pendre ou le faire maréchal de France. » Devinez ce qui s'est passé. Vous avez gagné. Alors, en 1796, par exemple, vous avez aussi le sac de Pavie qui montre aussi, qui a été aussi très choquant, mais qui montre une évolution aussi des mentalités, c'est que la plupart des officiers et des soldats ont refusé de prendre part au pillage. Ils ont protégé les femmes et ils ont même tué certains des pillards. Donc, c'est assez intéressant. Alors, là où on change un peu de terrain et qu'on voit que c'est plus compliqué, c'est par exemple le sac de Jaffa, donc pendant la fameuse expédition d'Égypte. Là, on est en Orient, donc on n'est pas avec des chrétiens en face. Alors là, vous avez des gens comme Larrey qui dit je me dispenserai de parler des suites horribles qu'entraînent ordinairement l'assaut d'une place. C'est une espèce de fatalisme qui continue. Desgenettes dit l'une des scènes d'horreur que justifient les lois nécessaires et terribles de la guerre. Hein. Et il y a Mio, parce que là, il y a énormément de gens qui ont vu et qui ont plus ou moins... on glisse en général. On n'a pas tellement de sources. D'abord, on n'a pas de sources sur ceux qui violent. Et puis, on n'a pas tellement de sources. Tout le monde est vraiment sur le plan moral. C'est très choquant, mais en fin de compte, bon, c'est comme ça, la guerre. Hein, comme je vous disais, cette espèce de fatalisme. Alors, il dit, qui pourrait retenir le soldat dans un pareil moment, la satiété, si l'on peut s'exprimer ainsi, ou plutôt la lassitude et la nécessité de mettre en sûreté le fruit de sa victoire. Donc, pas de grande... Alors, vous avez là quelque chose qui est quand même très, très intéressant, qui est le sac de la Gouate. Alors, vous voyez, c'est très militaire, c'est la prise, il y a une casbah. On est en décembre 52, c'est à la limite de l'Algérie saharienne. Et elle va subir toutes les horreurs de la guerre. Alors là, vous avez tout à fait la description habituelle. Elle connut tous les excès. Là, c'est le général Dubarry qui écrit ses mémoires. Elle connut tous les excès que peuvent commettre des soldats livrés à eux-mêmes, enfiévrés par une lutte terrible, furieux des dangers qu'ils viennent de courir, furieux des pertes qu'ils viennent d'éprouver, et exaltés par une victoire vivement disputée et chèrement achetée. Il y eut des scènes affreuses. Alors, quand ils ont massacré tout le monde, enfin, presque tout le monde, sur une population de 4000 personnes, il y a eu 2500 morts, donc à peu près les deux tiers. Et puis, il y avait des Juifs, une communauté de Juifs, qui ont célébré la retraite des Français en libérateurs. Le problème, c'est qu'il y a eu des femmes juives violées. Bon, les femmes musulmanes ont été violées, tuées, d'accord, mais les femmes juives, donc protestation. Donc, il y a trois soldats qui ont été pris sur le fait et qui sont passés en conseil de guerre. Devinez, ils ont été relaxés. Et ils ont été relaxés, pourquoi ? Parce que, de bonne foi, par leur teint et leur costume, ils les avaient prises pour des Arabes. D'accord ? On est en 1852. Alors, ce qui veut dire, c'est quoi ? C'est que, carte blanche dans les colonies, les exactions sont tolérées et elles participent de la pacification, de la conquête, de la terreur. C'est pourquoi je parle d'armes de guerre. Mais c'est le sac en général, mais enfin bon. Il y a une chose aussi qui est bien connue en histoire et qui participe, à mon avis, aussi de l'arme de guerre, c'est ce qu'on a appelé les dragonnades. Les dragonnades, c'est avant et après la révolution des de Nantes, c'est pour obtenir, donc Louis XIV, la conversion des Huguenots. Il a envoyé des missionnaires beauté, et donc pour obligation pour une famille protestante de loger, de nourrir des soldats, parfois jusqu'à 20 individus. Alors, normalement, sont interdits deux choses, tuer et violer, parce que malgré tout, le roi de France, c'est ses sujets. Donc. Mais mettez des soudards dans une maison en contact avec des femmes, des enfants, etc., vous voyez ce qui s'est passé, il y a eu des viols, et en grande quantité, et il y a eu des meurtres. Alors, quand donc on a assisté à les outrageaient les filles et les mères en présence des mères et des maris, quand des victimes trépassaient, ils avaient une réprimande verbale, quand ils avaient violé et tué leur hôtesse, ils pouvaient faire quelques jours de prison, donc ils ont la totale impunité. Et cette double interdiction de tuer et de violer, finalement, s'est retournée contre même les femmes, les soldats se sont ingéniés à les humilier. Et par exemple, ils mettaient les femmes en chemise, leur coupaient la chemise par derrière jusqu'à la ceinture, et en cet état, les obligeaient à danser avec eux. À Calais, par exemple, ils ont dévêtu deux jeunes filles et les ont mis dans la rue. Donc, c'est pas un viol, mais je peux vous garantir que ça a dû être un traumatisme. Je ne sais pas comment ces femmes ont pu, après, vivre. Donc, là, les buts, c'est vraiment d'obtenir, par la violence, la conversion. C'est atteindre les corps et les âmes pour vaincre toute forme de résistance. Le bilan, ça a été 300 000 à 400 000 nouveaux convertis. Et le Mercure, pour célébrer le miracle de ces conversions aussi rapides, parce qu'évidemment, dès qu'ils apprenaient tout ça, les gens se convertissaient très, très vite. Dans le Mercure, on compte ce miracle et ne craignent pas d'ajouter ce qui a achevé de convaincre les protestants du Béarn, ce sont les moyens paternels et vraiment remplis de charité dont Sa Majesté se sert pour les rappeler à l'Église. Je ne fais pas de commentaires, il n'y en a pas besoin. Alors, je vous ai mis ce petit dessin donc, qui est bien du monde diplomatique, parce que, en fin de compte, le viol a pris des proportions inédites, je dirais, au XXe siècle, parce qu'on passe au viol de masse. Tout simplement, on a une armée de masse. Donc, on a de plus en plus de soldats sous les drapeaux avec des milliers, et en plus des troupes dispersées. Donc, il y a toutes sortes de choses. Alors, on a une certaine impunité due à la situation de guerre. On a la fameuse violence présumée, la pulsion de soldatesque. Et donc, on poursuit allègrement la banalisation des atrocités de guerre. Je ne vais pas rentrer. On a vu les femmes de réconfort. Donc, vous avez là les petits dessins, les plus gros. Si j'ai bien vu, c'est pratiquement le
chinois, le japonais, voilà.
Donc je ne sais plus. Voilà. Donc c'est entre 500 000 et plus. Voilà. Après, le plus moyen là, c'est entre 100 000 et 500 000. Après, 10 000 à 1000 et moins de je sais pas trop de 100. Enfin c'est vraiment c'est rien, donc les tout petits. Donc là vous les avez dans tous les pays, sur tous les continents, à toutes les, donc depuis pendant le XXe siècle, est un siècle tout a été possible, le sac de Nankin, les 2 millions de vraisemblables de femmes allemandes violées, les, en dépit des lois de Nuremberg, la Wehrmacht, pourquoi ont été considérés les juifs comme impurs, ça n'a pas empêché de violer des juifs, d'eux aussi les mettre dans des bordels, etc. Et aussi les femmes dans des pays slaves, on dit au moins 500 000 femmes ont été prostituées dans les camps nazis. Au moment de la libération, ça a continué. Les Américains ont violé des Françaises et donc tous les pays où ils sont rentrés. À Okinawa, ils ont aussi violé. Et puis maintenant, il y a un livre qui vient de sortir d'une Allemande expliquant qu'il y aurait eu 860 000 femmes et jeunes filles qui auraient été, hommes et jeunes garçons, violés par les soldats alliés à la fin de la guerre et après l'après-guerre. Vous avez l'Algérie, vous avez l'Amérique latine, vous avez le Nigeria, le Biafra, par exemple, au Biafra. avec les débordements que ça implique. Donc en 60, 67, 70, on a les femmes qui ont accouché d'enfants de pères inconnus ont été mises au banc de la société. Le viol des femmes s'est effectué devant les maris, devant leurs enfants. Tout ça est fait pour affecter les relations de couple, de famille, de la communauté. Et évidemment, dans les sociétés patriarcales, les femmes violées sont méprisées, rejetées. C'est la dislocation du noyau familial de la société. On va revenir dessus. Alors, ça a pris encore plus de proportions, je trouve, à la fin du XXe siècle, décennie 80-90, et notamment dans l'usage politique des viols systématiques, généralisés et stratégiques, dans le cadre d'épurations ethniques, religieuses, raciales, politiques. Alors c'est une bizarrerie, parce que le viol sur commande, c'est assez curieux, mais c'est comme ça. Alors vous en avez un qui sort des années 90, c'est 70, c'est pendant l'indépendance du Bangladesh, tout le monde l'a peut-être oublié, mais 200 000 Bangladaises ont été violées par l'armée pakistanaise pour introduire en elles du pur gène musulman, puisqu'elles étaient considérées comme à moitié hindoues. Les auteurs, alors on les a appelés, on les appelle Bironjini, c'est-à-dire héroïne, pour éviter toute stigmatisation. Les auteurs des viols ont été arrêtés, vous inquiétez pas, ils sont sortis sans procès. Dans la région de Cabinda, en Ogola aussi, là aussi on oublie, des violences sexuelles ont été exercées sur les Cabindaises. Pour faire mentir les arguments des Cabandais qui revendiquaient une différence ethno-culturelle. Et puis, alors, 90, là, c'est quand même extraordinaire, et sort de tous ces conflits dits sociaux, ethniques, idéologiques et religieux. 91, 2000, Sierra Leone, 60 000, Liberia, 40 000, ex-Yougoslavie, 60 000, Rwanda, 100 000 à 250 000 femmes violées. Et celles qui ont survécu, 70% d'entre elles sont en plus séropositives. En République démocratique du Congo, 200 000 femmes violées, et ça continue maintenant en 2008. La Libye aussi, enfin bon, c'est absolument affreux et ça continue. Les scénarios sont toujours les mêmes. Indépendamment du contexte géopolitique, sociologique, des femmes sont vraiment le corps des femmes et le théâtre de la guerre. Ces violences sexuelles sont vues comme une tactique de guerre planifiée par une autorité politico-militaire, utilisée de manière stratégique pour humilier, affaiblir, assujettir, chasser ou détruire l'autre. C'est des viols de masse perpétrés sur de nombreuses victimes, multiples. La victime peut être agressée à plusieurs reprises et collective, l'agression peut se faire par plusieurs assaillants. C'est une forme vraiment d'attaque contre l'ennemi. Le viol caractérise la conquête, l'avilissement des femmes, qui incarne l'identité culturelle adverse. Ça humilie les hommes qui sont en charge de leur protection et qui sont impuissants à les défendre. Et ainsi que ça, évidemment, là aussi, il y a le déshonneur des combattants qui sont capturés. C'est perpétré avec la volonté délibérée de semer la terreur, l'infamie et le germe du rejet social. Le viol est une arme de destruction psychique et communautaire. Semer la peur, la honte, contaminer en plus le VIH. Et les Serbes, par exemple, voulaient pervertir la race bosniaque pour l'anéantir, qu'il n'y ait plus de futur dans la communauté, mêler les sangs. À l'est du Congo, actuellement, vous avez les Hutus qui viennent du Rwanda, qui forcent les femmes congolaises pour occuper des territoires. Donc, le but, c'est quand même d'annihiler la reproduction. On a des brutalités exercées sur les zones génitales, la destruction des fonctions reproductives. Vous avez le docteur Denis Mugwebe, voilà, qui est exceptionnel au Congo. Là, vous avez encore, il y a quelques temps, il y avait un article dans Nouvel Obs, il réparait des vagins de bébés, des bébés. Donc, je veux dire, ça va à un point épouvantable. Donc, éventration des femmes enceintes, mutilation des organes génitaux, intromission d'objets dans les parties génitales avant, pendant, après les viols. Bien, et les hommes subissent également des humiliations. L'effet pervers, c'est que maintenant on assiste à une recrudescence des mutilations traditionnelles, hein, comme la fibulation, etc., parce que pour renforcer l'identité culturelle, des mariages précoces plus fréquent parce qu'on veut garantir, on ne sait pas si on peut garantir la virginité des filles, au moins les mariées, et puis aussi l'appauvrissement dû à la guerre. Ce sont des traumatismes individuels, les femmes souffrent de PTSD, je vous rappelle que la prévalence dans les armées dont on fait beaucoup de cas est de l'ordre de 10 à 15% d'hommes qui vont être, qui souffrent de PTSD, en cas de viol c'est 80%. Donc troubles anxieux, dépressifs, comportementaux, il y a une altération des capacités cognitives, troubles de mémoire, de la concentration, incapacité à penser, émotionnelle, vous avez baisse de l'estime de soi, auto-dévaluation, dévalorisation, honte, culpabilité. Rappelons que en cas de viol, c'est la femme qui se sent, c'est la victime qui se sent coupable et jamais le violeur. Hein. Comportemental, donc des conduites addictives, des changements de caractère. Au niveau familial, ça fait exploser, bien évidemment, les familles. Il y a des femmes violées sont chassées, mises au banc de la société. Au niveau social, c'est la destruction des liens communautaires, etc., etc. Alors, troisième point. Le viol, quelque chose quand même d'extraordinaire, c'est qu'on a rentré le viol comme arme de guerre dans le droit international. Alors, quand même, il faut bien dire, le viol n'a jamais été impuni. Mais il y avait une impunité de fait, due aux circonstances de guerre, etc. Et en plus, par exemple, si c'était des femmes nobles, alors pas de problème, leurs violeurs, soldats, passés sous l'Ancien Régime, étaient, là on va voir quelque chose, par exemple. Voilà, vous avez, il y a trois soldats ont pris de force la fille d'un gentilhomme. Ils l'ont étranglée. En plus, elle était de grande beauté. Donc, alors, pour ce crime, ils ont été condamnés à être rompus vifs et mis sur des roues pour vivre tant qu'il plaira à Dieu. Et on peut voir ça, cette scène, c'est pas cette scène-là, hein, mais on peut s'imaginer, parce que c'est devant le front des armées, pour bien montrer que ça se fait pas. Mais c'est une femme noble. Quand elles sont pas nobles, les femmes, il faut qu'elles démontrent qu'elles ont bien été violées. Donc il faut qu'elles fassent une preuve par le corps. Ça, c'est sous l'Ancien Régime. Et les juges, comme les viols, ça peut être donc la roue, etc., c'est quand même un supplice épouvantable. Et quand les supplices sont vraiment trop épouvantables, les juges ont des doutes, n'osent pas trop le pratiquer. Donc il faut vraiment que la femme démontre qu'elle a été agressée. Et il faut bien le dire, il y a une thèse qui, d'ailleurs, perdure même maintenant. Hein, on considère que le viol tenté par un homme seul sur une femme est physiquement impossible, donc coupable la plupart du temps. Donc bien faire très très attention. Alors, faut pas croire qu'il n'y a que la justice qui passe, il y a aussi les paysans qui passent. C'est-à-dire que quand les troupes ont violé, volé, etc., eh bien, ceux qui sont des troupes qui sont isolées ou pas isolées, eh bien, peuvent être tués par les paysans. N'oublions pas que c'est une, jusqu'au XVIIIe siècle, compris même XIXe, les hommes sont armés d'armes blanches, mais aussi même d'armes à feu. Hein, c'est plus qu'on ne croit. Donc, le XVIIIe change quand même les choses. Hein, et on va vous avez la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui insiste sur le droit inaliénable de la personne de disposer de son propre corps. Et donc, le viol, hommes et femmes sont à égalité, et le viol n'est plus un rapt, n'est plus un vol. C'est une atteinte à la personne. Et ça change tout au niveau des mentalités. L'Assemblée constituante va d'ailleurs va supprimer la peine capitale pour le viol et va mettre des peines de fer. Hein, alors, par exemple, dans la loi du 11 novembre 1996, le viol commis par un militaire ou attaché à l'armée, et c'est puni de 8 ans de fer. S'il y a des violences, s'il y a des complices, si le viol a été commis sur une fillette, enfin âgée de moins de 14 ans, eh bien la peine sera de 12 ans. De faire. Si la femme ou la fillette, enfin la femme ou la fille est morte, eh bien le coupable sera puni de mort. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, toutes les armées ont pratiqué le vol de façon massive, ce qui fait que Trébal de Nuremberg à celui de Tokyo, eh bien les caractères criminels de la violence sexuelle n'a pas été vraiment pris en compte et vraiment dénoncé. Donc, il y a eu la justice militaire, etc., française ou autre, américaine, ont pu jouer, mais c'est trop. Donc, il faut attendre quand même la pré-deuxième guerre mondiale, le travail conjoint, alors des psychiatres, la psychanalyse, de la reconnaissance de la violence psychique qu'implique l'agression sexuelle, parce que ça, on ne comprenez pas, que le viol par pénétration ou l'attouchement ou les caresses imposées. Et il faut attendre les mouvements féministes, notamment américains, en des années 1960-70, la place nouvelle de la femme aussi dans la vie économique, pour que la législation prenne en compte les manifestations de l'opinion publique, féminine notamment, et reconnaisse comme crime tout acte de pénétration sexuelle commis par contrainte. Vous avez la loi 1980, mais vous savez, Fabrice Virgili qui peut vous expliquer ça très, très mieux, qui a écrit un super article là-dessus. Donc, je me tais. On assiste aussi à l'apparition de la nouvelle nosologie psychiatrique et avec les PTSD. Hein, donc, notamment, les féministes ont joué sur... On dit toujours, même là, dans les médecins militaires, des fois je leur dis, ils me croient, mais à peine, ils ont toujours pensé que la première DSM-3, là, donc la Bible, en quelque sorte, pour les psychiatres, pour la définition des troubles psychiques, c'était sous la pression des soldats revenant du Vietnam. Mais c'est aussi, je dirais presque surtout, par les féministes, et notamment qui ont fait jouer la protection de l'enfance et la survivance de l'inceste, donc dans tous les troubles, etc. Et les violences sexuelles, considérées comme événements traumatiques, apparaissent dans le DSM-4, donc de 1987. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du droit ? Le droit humanitaire a mis quand même un certain temps pour prendre en compte les femmes, le viol, etc. Je vous rappelle qu'en 1863, c'est la création de la Croix-Rouge, mais il faut attendre le Comité international de la Croix-Rouge de 1949, donc les conventions de Genève, pour que dans l'article 4, il y ait quelque chose qui protège les civils, l'article 27 protégeant spécialement les femmes contre toute atteinte à leur honneur, notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur. Il y a les protocoles additionnels de 1977 qui, pour impliquer les pays entrant donc nouveaux décolonisés, et qui parlent, un, de conflits armés, les guerres civiles. Alors, j'ai une petite carte qui est amusante parce que c'est la ratification des conventions de Genève. Vous voyez maintenant, quasiment tous les pays ont ratifié. Ce n'est pas le cas du protocole 1 et 2 de 77. Alors, en principe, les violeurs sont, puis-je finir là-dessus, les violeurs sont jugés par les tribunaux nationaux. Dans les sociétés patriarcales, c'est un délit mineur, voire les dénonciations de viol peuvent se retourner contre les femmes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les autorités locales sont en général peu empressées. D'ailleurs, dans les armées aussi, on a quelquefois traîné les pieds, parce que je vous rappelle quand même, pendant la campagne d'Italie, le viol par les goumiers, là, sur lequel on glisse, on célèbre leur héroïsme, mais pas dans toutes circonstances. Alors, pendant l'hiver 92-93, il va y avoir un choc. Et ce choc, c'est la prise de conscience de ce qui se passe dans l'ex-Yougoslavie, parce que là, on a des camps de prostitution, on a des cas de viol massifs. Au début, personne n'a voulu y croire, et puis finalement, le Conseil de sécurité, le 18 décembre, va déclarer donc la détention et le viol massif organisé systématique contre les femmes musulmanes en Bosnie-Herzégovine constitue un crime international. Le tribunal pénal international, donc pour l'ex-Yougoslavie, va inclure le viol comme crime contre l'humanité. Donc là, on est en 1993. Parallèlement donc à d'autres crimes comme la torture et l'extermination, dirigés donc à la population civile. En 2001, ça va être pour la première fois, jugement de 3 accusés, donc coupables de viol en tant que torture et crime contre l'humanité. Et alors là, c'est extraordinaire, il y a un des violeurs qui va se défendre et en disant « mais j'aurais pu les tuer ». Il n'a même pas vu où était le problème, quoi. Alors, le tribunal a élargi aussi la définition de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité pour inscrire l'esclavage sexuel. Jusqu'à cette date-là, donc c'était, il n'y avait pas, il y avait que des travaux forcés. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous avez 20 000, estimés 20 000 en Ex-Yougoslavie, Herzégovine. Vous avez nombre de responsables jugés, nombre de responsables condamnés, 12. Hein, donc tout ça, c'est sympa, mais ça ne marche pas tellement. Vous avez le Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui va, en 1994, déclarer le viol comme crime de guerre contre l'humanité, et va faire aussi une accusation pour génocide. Le viol étant considéré comme génocide. Et c'est le fameux condamnation de l'ancien maire Jean-Paul Akaïssou qui va être condamné pour viol et agression sexuelle comme acte de génocide commis avec l'intention de détruire le groupe ethnique Tutsi. Au Sierra Leone, actuellement, c'est en cours. Le statut de Rome de la Cour internationale, de la Cour pénale internationale, donc juillet de 2002, comprend le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou tout autre de violence sexuelle de gravité comparable parmi les crimes contre l'humanité quand ils sont commis de manière généralisée et systématique. Vous avez en 2008, donc la résolution 1820, qui met fin, donc, et demande à mettre fin aux actes de violence sexuelle en tant que tactique de guerre. C'est la première fois qu'on l'emploie, et de mettre fin à l'immunité. Et puis, vous avez... Bon. Alors, je termine. C'est un tableau sombre hein, de toute cette histoire. Ces violences sexuelles sont toujours d'actualité. Hein, on en a tous les jours. L'instrument juridique international en faveur du droit et de la protection des femmes est en place, c'est une bonne chose. Il y a une prise de conscience internationale, ça bien, mais il reste à faire évoluer les mentalités, les consciences, les pratiques coutumières et traditionnelles. Alors je vais finir sur une note positive, parce qu'il y a, pour dire que le... Ah oui, de temps en temps, on en trouve une. Le phénomène du viol de guerre n'est pas une conséquence systématique de la guerre, il faut le dire, parce que c'est... Ça paraît pas toujours évident quand on entend tout ça. Et il y a une étude du Centre de recherche de la guerre civile qui indique que 60% des groupes armés ayant participé à 48 conflits en Afrique de 1989 à 2009, eh ben, n'étaient pas impliqués dans des viols collectifs. Alors, c'est pas... Il y en a évidemment les autres. Il y a 40% qui ont pratiqué le viol de collectif. Mais enfin, ça prouve que le viol, même dans des situations... peut être évité et on va finir sur cette note positive. Voilà, c'est tout.